Alors avant de ce qui sera peut-être, on ne le souhaite pas, un deuil national ce soir à la fin du match de foot, ou bien au contraire une euphorie collective, un peu d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec Alain Gadan et Benjamin de la Gatinet aujourd'hui à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, Xavier Pestudia réalise l'émission. Et une petite humeur qui nous ramène sur les bancs de l'école parce que c'est aussi là que se joue l'avenir de notre planète. En plein débat sur l'identité nationale, donc, voici une réponse toute trouvée, oui. Nous sommes des chasseurs de père en fils depuis 10 000 ans. Du mammouth de Sibérie à la palombe du Gers, tiré sur tout ce qui bouge chez le petit dôme, eh ben c'est dans les gènes. Pourtant, il semblerait qu'on enregistre une baisse sérieuse des vocations chez les tontons flingueurs en herbe. Qu'à cela ne tienne, nos chatouilleux de la gâchette se découvrent une âme de protecteur de la nature, avec la bénédiction du gouvernement, gouvernement qui l'année dernière, dans un grand élan de générosité, nous instaure pêle-mêle le délit d'entrave à la chasse, des soldes toute l'année sur le permis pour les plus jeunes et des suspensions en trompe-l'œil pour les dégommeurs d'espèces protégées. Le chasseur nouveau labellisé comme un protecteur de la nature, nous dit-on, ne tue plus pour s'amuser. Et s'il fait péter la poudre, voyez-vous, c'est uniquement pour réguler tout à fait bénévolement les populations de renards et de croisements de sangliers qu'il a lui-même introduites. Autre point d'interrogation, les sorties scolaires qui sont sponsorisées par les fédérations de chasseurs, entre autres du Loir-et-Cher, avec agrément de l'éducation nationale sur le thème « Découverte de la faune et de la nature ». Oh, regardez les enfants, vous voyez ces arbres abîmés par les vilains chevreuils? Oh, et par-ci, là, ces trous qui sont creusés par une bande de dangereux blaireaux prédateurs. Ouh là là! Heureusement que nos amis chasseurs sont là pour débarrasser nos forêts de ces méchants prédateurs. Peut-être une sortie en 4x4 pour les garçons, un atelier cuisine sur la cuisson du sanglier pour les filles, hein? Oui, je sais, j'exagère toujours, mais il peut quand même y avoir certaines dérives. Alors on l'a compris, les fédérations de chasseurs sont à la faune sauvage, ce que les fabricants de pesticides sont au purin d'ortie. C'est-à-dire des organisations charitables et respectueuses de la nature qui n'ont d'autre objectif que le bien commun, avec la plus longue durée de période de chasse si possible. Paraît-il même que cette année, dans le Grand Nord canadien, le convoi de la flamme olympique a cédé le passage à un ours blanc égaré qui cherchait sa banquise. Et qu'on verra bientôt le chasseur des Pyrénées s'arrêter pour laisser les ours traverser en paix sur les passages cloutés. Alors tout ceci n'a rien à voir avec une autre actualité, c'est de la chasse quand même, c'est les braconniers de l'ivoire. Cette espèce de chasseur que l'on croyait atténué et qui fait des ravages aujourd'hui parmi les populations d'éléphants d'Afrique centrale. 30 000 pachydermes au tapis chaque année. La faute aux cours de l'ivoire qui flambent sur les marchés de Chine et qui suscite bien des convoitises parmi les mafias du monde entier. Trafic de drogue, d'armes, d'espèces protégées, on le sait, font un seul et même combat. Et si à l'occasion de leur prochaine sortie nature, on proposait à nos petits écoliers cette remarque empruntée par John Kennedy, un philosophe indien : quand les garçons jettent des pierres sur les grenouilles, c'est pour jouer. Quand les grenouilles meurent, elles, ce n'est pas pour jouer. Alors au menu dans quelques instants, les chrysanthèmes étant en solde, on va en profiter. Nous étions au Festival du Vent, hein, au moment de la Toussaint, donc on n'a pas voulu gâcher la fête comme ça, vous parler de mort comme ça en Corse. Donc on va vous offrir un pot. Et puis, vision de la Chine environnementale avec Éric Meyer, journaliste, écrivain, correspondant de plusieurs médias. Ensuite, une autre initiative qui nous emmènera à Mur-Érigné, dans le Maine-et-Loire. Et là, on va s'intéresser à cette commune de plus de 5000 habitants qui a quand même fait des choses tout à fait intéressantes, et nous laisserons aussi les bambous, alors ça c'est encore un autre sujet, les bambous travaillés qui avaleront les eaux usées et les bouts des stations d'épuration. Voilà, donc initiative plutôt positive aujourd'hui. Ne vous envolez pas, ne faites pas comme les feuilles mortes, on vous garde au moins jusqu'à 15h et même un peu plus tard sur France Inter. C'est parti.
Sabe, dia não te poder inventar uma folia pra tirar no desloucura, sem gosto e sem sabor. Talvez dia não te fazer desse mundo fantasia. Na seriedade não te levar, modo vida que é banal. Na
ligereza não tá viver, sem mágoa, sem ofender ninguém. Já tentando, mas ela, pra não suportar, nós viver, não se avisar, um brisa não procurar, não insabela, de nós amor, amor tá bom. Amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Um dia se não tá poder inventar uma nova folia pra tirar-nos dessa loucura, sem gosto e sem sabor. Talvez um dia não tá fazer desse mundo uma fantasia. Na seriedade não tá levar uma vida que é banal. Na ligeireza não tá viver, sem mágoa, sem ofender ninguém. Já tentando, mas ela, pra não suportar, nós viver, não se avisar, um brisa não procurar, não insabela, de nós amor. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não cê vai ver. 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 Não cê vai ver.
Eh ben oui, c'est la saison, donc on arrive avec nos fleurs et avec Jean-Marie Pelt. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On aurait pu vous parler alors des cercueils écologiques, de la crémation sans CO2, etc. On va vous parler du chrysanthème quand même aujourd'hui.
Oui, alors on ne peut pas imaginer la Toussaint sans chrysanthème et on ne peut pas imaginer les rameaux sans buis. Mmh. Encore que dans le sud méditerranéen, c'est les rameaux d'olivier. Et pas le buis.
Alors ça vient d'où le chrysanthème? Pourquoi effectivement on fleurit à la Toussaint?
Alors ce chrysanthème ne vient pas de chez nous. C'est une plante qui provient de l'Inde, de la Chine, du Japon, beaucoup du Japon d'ailleurs, et qui a été introduite bizarrement en France par le capitaine Blancard, qui était un amateur de botanique, l'année de la Révolution française, en 1789. Donc il faut d'abord commencer par dire que sur les tombes avant cette date, il n'y avait pas de chrysanthème. Et que d'ailleurs, sur les tombes après cette date, il n'y a pas eu tout de suite des chrysanthèmes. Il a fallu encore un grand nombre de décennies pour que le chrysanthème prenne la place qu'il occupe aujourd'hui pour la Toussaint. Parce qu'on ne pourrait plus aujourd'hui imaginer une fête de Toussaint sans les fameux chrysanthèmes. Mais pourquoi chrysanthème?
Oui.
Pourquoi chrysanthème?
Ça, c'est l'origine du nom ou bien...
Oui, parce que chrysos, ça veut dire jaune. Mm-hmm. Et anthème, ça devient d'un anthos, la fleur. Ce sont les fleurs jaunes. Parce que les premiers chrysanthèmes étaient jaunes, mais en fait, il y a aussi des chrysanthèmes violets, il y a des chrysanthèmes rouges,
blanc.
Il y a des chrysanthèmes blancs. Donc, le mot n'est pas opportun. Il faudrait trouver un mot qui ne mette pas en évidence sa couleur quand ce n'est pas la vraie couleur. Oui. Voilà. Alors, le violet, c'est une couleur intéressante parce qu'elle a toujours été considérée comme la couleur de l'automne. C'est le moment où la lumière qui est solaire en plein été, jaune par conséquent, hein, soleil, jaune clair même quand on le regarde de face, on prend des risques. Mais quand il se couche, alors ce jaune commence à évoluer vers du rouge et dans de nombreux pays que j'ai visités vers du violet. Ce qui est très typique en Afghanistan où j'ai beaucoup travaillé, c'est que le soir, tout devient violet. Les montagnes deviennent violettes, il y a une atténuation du rayonnement solaire. Et par conséquent, c'est le symbole de l'automne. C'est le symbole de l'automne, donc le chrysanthème arrive bien à cette saison, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi on ne met pas d'autres fleurs sur les tombes que les chrysanthèmes. Ben, la réponse est très simple, il n'y en a pas.
Voilà, celui-là, il a le bon goût de fleurir au bon moment.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'il est, ouais, il est décalé, il est...
Non, il fleurit au bon moment. Alors, il fait partie de ces plantes rares, d'ailleurs, qui fleurissent quand les nuits sont plus longues que les jours. Ah. Alors, c'est ce qui se produit après le 21 septembre. Vous ne ferez pas fleurir un chrysanthème avant. Rares sont les plantes qui ont cette propriété. Il y a l'houblon qui est comme ça. Il y a des tabacs qui sont comme ça. Mm-hmm. Il y a le chanvre qui est comme ça. Mais c'est pratiquement tout. Hein. C'est rare les plantes qui fleurissent quand les jours sont devenus courts et que les nuits sont devenues longues. Ben, le chrysanthème, c'est le contraire.
Et la consommation de tabac, de chanvre et de bière n'est pas supérieure après le 21 septembre.
Non. Mais le chrysanthème a besoin de nuits longues. Alors, on peut faire fleurir des chrysanthèmes le 14 juillet dans une serre. Il suffit d'obscurcir la serre à 4 heures de l'après-midi et de la rééilluminer le matin à 7 heures. Alors les chrysanthèmes fleurissent. Alors les chrysanthèmes fleurissent parce qu'ils croient qu'ils sont dans une période de nuit longue. Et ça, les horticulteurs le savent très très bien, parce que dans leur serre, ils peuvent réguler les longueurs d'illumination ou d'obscurité en fonction des besoins en chrysanthèmes. Il peut y avoir une période, par exemple, où l'insolation est quand même encore très forte, ça peut arriver, des années où il fait très beau très longtemps. Et là, la prudence voudra que peut-être on allonge un petit peu les nuits pour que les chrysanthèmes ne se trompent pas, oui, et ne soient pas troublées par le grand beau temps. Par, oui, le grand beau temps. Donc, c'est une plante qu'on peut réguler pour l'avoir en bon état le jour de la Toussaint sur les tombes. Et alors, à ce moment-là, les cimetières se transforment en de véritables floralies. Oui. C'est très beau, un cimetière à la Toussaint. Mm-hmm. C'est très beau parce qu'on a ces différentes variétés de chrysanthèmes. On a les chrysanthèmes en boule, on a les chrysanthèmes qui sont, au contraire, petits comme des marguerites. C'est la famille de la marguerite. Alors, c'est la famille de ces étranges plantes. Il y en a à peu près 20 000, ce n'est pas beaucoup, puisqu'en tout, il y a 250 000 plantes à fleurs. Il y en a 20 000 qui regroupent leurs petites fleurs tout ensemble. Une marguerite, c'est une république de fleurs. C'est un groupe de fleurs socialisées. Et tous les petits points jaunes qu'on voit au milieu, c'est tout des fleurs. Ce n'est pas des étamines, c'est des fleurs. Les chrysanthèmes, c'est pareil. Seulement, on s'est arrangé pour que les fleurs du bord, dans la marguerite, les blanches, soient plus nombreuses que les fleurs du milieu, dans la marguerite, les jaunes. Et chez les chrysanthèmes, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus de fleurs du milieu et qu'il n'y ait plus que des fleurs qui soient comme des pétales. C'est pour ça qu'on a cette impression, comme dans la rose d'ailleurs, et d'avoir une fleur composée, une boule. Mm-hmm. Une boule, et on dit d'ailleurs des chrysanthèmes boules parfois, c'est comme ça qu'on peut les appeler, parce que c'est des fleurs qui sont des fleurs sociales. Ce sont des fleurs qui se sont organisées en république de fleurs. C'est pourquoi j'avais proposé au Parti socialiste d'abandonner la rose et de prendre le chrysanthème. Oui, mais il n'y a pas de chrysanthème rose. Oui. Alors j'avais proposé de prendre des gerberas. Oui. Les gerberas, ce sont ces espèces de grosses marguerites très belles qu'on met devant les Bouddhas en Orient. Et l'Orient est tout plein de gerberas. Et alors un gerbera rose serait un symbole magnifique pour le Parti socialiste. Alors évidemment, il n'aurait pas d'épines. Faut-il que le symbole d'un parti politique n'ait pas d'épines ? Non, il faut des épines pour que les autres partis politiques ne lui marchent pas sur les pieds.
Oui. Et puis en interne aussi pour se faire un petit peu de mal. Merci beaucoup Jean-Marie Pelt et à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Te souviens-tu du pays des oiseaux ? Tu sais celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus, on dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes à l'horizon de rivières. château de sable qui périt sous la vague. Tout se casse, dis-moi ce qu'il se passe, je le trouve assez beau, notre pays là-haut.
Soif de grand large et de pays sauvages, c'était Émilie Loiseau, choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice. Vous êtes bien sûr France Inter, CO2 mon amour, et on va partir en Chine sans dépenser un gramme de CO2. C'est quand même formidable le téléphone, avec Éric Meyer qui est journaliste, vous connaissez son nom, expert, qui a écrit de vraiment différents ouvrages, dont un qui s'appelle, le dernier qui s'appelle « Bon chat chinois prend la souris », c'est les chroniques de la vie ordinaire, tout le quotidien des Chinois aux éditions du Seuil. Mais on va parler avec vous d'environnement, Éric. Mais hier, d'abord, peut-être le constat environnemental en Chine. Faut le dire, c'est une belle masse de pollution, c'est une gentille horreur écologique. Ça, c'est une des premières entrées, peut-être, pour aborder la Chine. Et puis après, on verra ce que font les Chinois. Alors, peut-être d'abord, effectivement, cet aspect négatif.
Effectivement, mais écoutez, le bilan, après 20-30 ans d'industrialisation forcenée et sans formation environnementale du tout, est affligeant, quoi. Vous avez... Rien qu'au Tibet en ce moment, un réchauffement du Tibet qui est 6 fois plus rapide que celui de la Chine. Et donc, les 36 000 glaciers du Tibet sont en train de se dégeler à toute vitesse et les cours d'eau se dérèglent complètement. Donc, par exemple, en bas du Tibet, vous avez le Yangtze qui arrive du Tibet. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le gouvernement vient de donner l'ordre à tous les barrages sur le Yangtze de relâcher les vannes pour qu'il y ait un petit peu d'eau qui arrive quand même, parce que c'est complètement désert. Et vous avez 1 million d'hectares de terres qui sont mortes, de terres plantées qui ne donneront rien, et il y a 500 000 bovins qui sont en train de mourir ou qui sont à risque, et on les abreuve avec des camions de l'armée qui apportent de l'eau, comme ça, c'est lamentable.
Il y a aussi la qualité de l'air que l'on connaît au-dessus des grandes métropoles.
Malheureusement, il faut bien dire que ça donne 1 million de morts par an, de pollution, de charbon, de soufre, d'air jaune, même au-dessus de Pékin maintenant, qui s'est pourtant beaucoup amélioré pour les Jeux Olympiques. C'est grave. Et au niveau des eaux, je voyais ce matin un article de presse qui disait que 25% des habitants de Canton ne veulent pas boire de l'eau du robinet, même bouillie, à cause des métaux lourds qui sont encore en dépôt dedans. Donc tout le monde achète des bonbonnes en plastique de 25 litres pour avoir quelque chose à boire qui ne nous pollue pas trop. Mais tous les jours, on va voir des histoires d'enfants pollués au plomb. Enfin, chaque semaine, il y a des petites catastrophes, des petites bombes qui éclatent ça et là pour nous donner la température de la pollution de cette Chine qui a atteint le niveau vraiment le plus bas.
Et puis, cette Chine, c'est aussi un pays qui manque de terres arables parce qu'aujourd'hui, la Chine dispose de 9% des terres arables de la planète et doit nourrir 20% de la population mondiale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? On l'a très bien vu. Elle va ailleurs, elle va délocaliser, elle va acheter, elle va louer d'autres terres sur d'autres pays pour nourrir son pays.
Oui, elle le fait en Afrique, elle le fait en Argentine, elle le fait en Russie où il y a 500 000 paysans, au Kazakhstan, un peu dans tous les pays du monde. Mais il faut préciser que qu'elle n'a pas grand succès à faire cela. D'abord parce que c'est pas chez elle et les conditions météo, elle les maîtrise pas forcément aussi bien que s'ils étaient nés sur place, en quelque sorte. Et d'autre part, les gouvernements sont quand même prudents et en plus, les populations locales peuvent se révolter ou peuvent ne pas voir d'un bon oeil des populations entières transplantées sur leur territoire national à côté d'eux et qui en plus réussissent mieux qu'eux parce que les paysans, les Chinois sont des paysans hors pair.
Alors Éric Meyer, on a dressé d'abord ce portrait évidemment qui n'est pas très joyeux de cette horreur écologique. Maintenant, voyons comment cette Chine rebondit. Que peut-on dire ?
Eh bien, écoutez, autant la catastrophe est arrivée par inconscience et cette inconscience elle existe encore au niveau de la base chinoise, autant le gouvernement fait des efforts merveilleux, extraordinaires, éblouissants, je dirais, pour remonter la pente. Ça a commencé, par exemple, en 1999. Vous aviez à l'époque un Premier ministre, Zhu Rongji, et deux ans plus tôt, le Yangtze avait débordé. Shanghai avait failli être emporté. Il y avait eu une bataille de millions de gens qui étaient dans l'eau jusqu'aux hanches, quoi, se passaient des sacs de sable pour reconstituer les digues qui avaient disparu. Et Shanghai a été sauvé, ainsi que Nankin, in extremis. Mais après, ils ont dit maintenant, on va reprendre le problème à zéro. Donc on replante des arbres partout, notamment le long des fleuves, afin de tenir la terre des digues. On crée une grande muraille verte qui traverse toute la Chine. Ça fait quand même 5000 km de long par 30 km de large. Une forêt entière qu'on plante depuis 10 ans, 20 ans maintenant, pour empêcher les vents du nord, du désert du Gobi et de la Sibérie, de charrier des millions de tonnes de sable vers le sud et d'ensabler les villes, en quelque sorte. Vous avez pas mal de nouvelles installations à haute technologie, comme par exemple à Tianjin. Ils sont en train de créer une centrale commerciale de captage du carbone pour l'insérer dans le sol. C'est une technologie de très haut niveau qui n'existe pas encore ailleurs sur Terre.
Donc c'est le fameux captage du CO2. Éric Meyer, parlons aussi de cette Chine qui est, on va dire, l'empire du solaire levant, parce qu'on investit quand même massivement dans cette affaire aujourd'hui. Alors on sait que 80% de l'électricité chinoise provient du charbon, mais à côté de ça, il y a quand même des objectifs très solides. 15 à 20% de la production d'énergie devrait être tirée des énergies renouvelables d'ici 2020, et en particulier grâce au solaire.
Le solaire, l'éolien et aussi d'autres renouvelables,
et l'hydraulique.
Le nucléaire, bien entendu. Mais ça se fait à tout niveau. J'étais il y a deux ans en province du Xinjiang, qui est un immense désert du Taklamakan avec des oasis. Maintenant, les oasis, il n'y en a plus parce qu'elles sont reliées les unes aux autres par une irrigation hydroponique. Et qui fonctionne, il y a des pompes qui sont elles-mêmes alimentées par énergie solaire, donc des panneaux photovoltaïques. Un peu partout en Chine, vous avez des usines qui tranchent le silicium, qui traitent le silicium pour en faire des cellules photovoltaïques et qui commencent maintenant à avoir une qualité suffisante pour les exporter aux États-Unis. Au total, j'ai noté un chiffre de 130 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 130 centrales nucléaires qui seront installées d'ici 2020 en éoliennes. Elles sont des éoliennes énormes. Elles font maintenant 100 mètres de haut avec des pales de 50 mètres de long qui se plient, qui se tordent en fonction du vent. Ça, c'est étonnant à voir. Le même en énergie solaire. Vous avez un petit peu partout de ces usines, des groupes industriels énormes. Alors là, j'ai peut-être un scoop. Il y a un groupe qui s'appelle Shanghai Electric, qui est le groupe d'État de l'État chinois et qui risque de remporter toute la mise en reprenant le boulot des ténors espagnols, indiens ou américains comme General Electric, simplement parce que l'État chinois va donner tous les crédits d'équipement à cette entreprise-là et pas à d'autres afin de garder le boulot chez eux en Chine. Mais par contre, ça donne un énorme chantier en perspective. Partout, on construit d'énormes usines pour produire ces centrales solaires, ces centrales éoliennes et des fermes pour les exploiter aussi.
Alors Éric Meyer, nous allons parler aussi de la Chine et de Copenhague. Aujourd'hui, la Chine est devenue donc le premier, on va dire, producteur d'émissions mondiales, 24% donc des émissions de CO2. Ramené au nombre d'habitants, la France est encore largement au-dessus, les USA également. Mais quelle va être la position, qu'est-ce que vous sentez pour Copenhague ?
Le problème de la Chine, c'est que jusqu'à présent, pour des raisons à la fois pratiques et idéologiques, donc idéologiques post-staliniennes, la Chine prétendait que le problème de réduire les émissions de CO2 sur Terre, c'était le problème des, en gros,
des pays riches,
capitalistes, des Blancs, des Européens, et puis des pays sous-développés, tandis que les pays sous-développés du type asiatique et socialiste devaient être épargnés, ils avaient le droit à se développer. Alors, écoutez, la Chine, en ce moment même, est en train de changer, mais tout à fait radicalement, d'opinion.
Ah.
On a le président Hu Jintao qui a annoncé à New York devant l'Assemblée des Nations Unies, il y a environ 3 semaines, 1 mois, que s'apprêtait à assumer des responsabilités en ce sens, c'est-à-dire à se donner un objectif de coupe contraignante de leurs gaz à effet de serre. Tandis que hier, un think tank du gouvernement chinois annonce que, à son avis, la Chine devrait se doter d'une coupe contraignante de 4 à 5% par an, ce qui pour l'an 2050 devrait réduire de 85 à 90% les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre de Chine par rapport à l'horizon 2005.
Merci beaucoup Eric Meyer. Il est un peu plus de 21h30, j'imagine, chez vous du côté de Pékin. À quoi ressemble, on va dire, l'horizon quand vous regardez votre fenêtre ?
Eh bien, en fait, c'est tout noir. C'est tout noir, mais d'un noir argenté, puisque c'est pollué. Et ça fait 6 heures que ça dure, puisque depuis 5 heures du soir, nous sommes dans l'obscurité. Et par contre, vous avez des voitures qui défilent partout dans la rue. On se croirait à New York, des néons et des éclairages partout. Les Chinois veulent absolument montrer à travers leurs fenêtres qu'ils ne sont plus pauvres, qu'ils sont devenus riches et fiers de l'être et qu'ils vont continuer comme ça.
Et vous l'avez très bien écrit dans l'Empire en danseuse, l'univers du vélo chinois, ou bien vous dépeignez évidemment ce passage du vélo à la voiture. À très bientôt Eric Meyer, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, stratégie chinoise sur le réchauffement global, écrit avec des scientifiques, c'est sur un site que vous retrouvez sur le site de CO2 Mon Amour, www.objectifchine.com, si vous souhaitez en savoir plus. Vénus, oui, Vénus.
C'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougue.
La fougue.
Et c'est quoi qu'il y a dedans là?
C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Bien les coins aussi.
C'est quoi les petits trucs blancs là-dedans?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Completely wrong. I wish I was made. Rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. And live some beautiful days in a magical place. Beautiful love, purple and strange. Beautiful. Beautiful love.
Beautiful Days, Vénus sur France Inter, du chrysanthème à la Chine, de la Chine maintenant au Maine-et-Loire. Nous allons partir à Mur-Érigné avec Philippe Baudard qui est le maire de cette commune, 5400 habitants, on n'est pas très très loin d'Angers, on est sur les coteaux de l'Aubance. Et au-delà d'un festival du film Nature et d'environnement qui a lieu tous les ans, cette affaire-là repose d'abord sur les convictions d'un maire qui a voulu monter un projet solidaire et écologique. Alors, impulser, réglementer, ça c'est le boulot d'un maire, mais aussi accompagner sa population à mieux se déplacer, se nourrir, s'éclairer, trier, économiser, au prix d'un changement de comportement évidemment, mais cela amène à l'inversion quand même d'un processus de dégradation que l'on voit assez bien un petit peu partout. Donc là, initiative plutôt positive. Et donc on va poursuivre, on va se promener à Mur-Érigné. On est dans le Maine-et-Loire avec Philippe Baudard.
Quand on est responsable politique d'un territoire, et ma vision c'est de remettre l'homme au centre des préoccupations, mais moi ça fait depuis 1995 que je dis qu'il faut que les êtres humains sur le territoire dont j'ai la responsabilité aient le meilleur épanouissement du premier au dernier jour. Donc il faut une vision systémique de la politique, et ça veut dire que ces enfants, par exemple, on a commencé à s'en occuper. D'abord, vous avez derrière vous une maison de l'enfance avec halte garderie, crèche collective, tout ce qu'il faut, ludothèque, école qui ont été restaurées, une nouvelle qui a été construite. Et puis on s'occupe de leur santé. Là, vous sortez du restaurant scolaire avec beaucoup d'alimentation bio, toutes les volailles sont labellisées, 90% de produits frais.
Et tout ceci sont des produits locaux, hein, parce que vous faites attention, ça vous avez aussi créé ou renforcé des filières existantes.
J'ai installé sur la commune le groupement départemental des agriculteurs biologiques et biodynamiques. Du coup, on a trouvé les filières d'approvisionnement, et c'est sûr que maintenant, on a pratiquement nos 20% bio qui seront obligatoires dans le cadre du Grenelle en 2012.
On est passé devant l'école. Alors cette école qui est superbe avec ses panneaux donc photovoltaïques, hein, qui sortent 50 000 kWh par an, donc après que vous revendez à EDF. Et ça, c'est très original également, c'est que vous avez créé un plan climat, donc énergie, pour votre commune. Il faut dire que, donc, à la suite du Grenelle, les communes de plus de 50 000 habitants seront obligées d'avoir donc ce plan climat. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Pourquoi le faites-vous et qu'est-ce que vous mesurez ?
On sent vraiment qu'il y a une urgence très importante, et il faut que tout le monde aille très vite là-dessus. Et d'autant plus vite que nous sommes aussi dans une crise économique créée par une crise financière, et qu'on s'aperçoit très clairement qu'à chaque fois qu'on va vers le développement durable, vers les économies d'énergie, vers les énergies renouvelables, on gagne, c'est-à-dire qu'on perd moins sur les frais de fonctionnement des collectivités, y compris des foyers. Les gens qui font attention à l'isolation, les gens qui mettent des énergies, un chauffe-eau solaire sur leur toit, consomment beaucoup moins d'énergie. Donc ils dépensent moins pour des choses qui, en plus, ne créent pas spécialement d'emplois sur le territoire. Et ils peuvent avoir plus d'argent consacré à l'alimentation, voire peut-être partir en vacances ou des loisirs dans leur pouvoir d'achat. Et ça me paraît fondamental. C'est véritablement une autre philosophie de vie aussi qui est derrière tout ça.
Alors là, on est en train de se promener dans votre commune. On va rentrer dans un endroit un peu plus frais parce que, bien sûr, il est boisé. Et là, c'est peut-être pas des gamins qu'on va entendre, mais on va peut-être entendre des batraciens, alors que c'était pas forcément gagné pour eux de rester dans le coin.
Là, vous avez un hôtel de ville qui était en plein centre de la commune, très ancienne ferme. Et devant, il y avait un bassin qui était vraisemblablement un bassin où les fermiers d'antan faisaient rouir le chanvre. Oui. Et la première réflexion de l'architecte urbaniste qui est venu pour voir comment on allait aménager les abords d'hôtel de ville, c'était: monsieur le maire, il faut à tout prix combler ce bassin, car pour votre responsabilité civile, voire pénale, c'est trop risqué.
Oui, les enfants ne savent pas nager dans ce bassin. En gros, c'était ça. Quoi.
Voilà.
Oui.
Et donc, j'ai dit, mais non, pas question. Là, c'est une richesse. D'ailleurs, entre parenthèses, l'été qu'on vient de vivre, qui était très sec. Ouais. Et ce bassin nous a permis de puiser l'eau pour arroser les jeunes arbres qui étaient en souffrance, l'eau pluviale, ouais, sans que ça passe par l'eau effectivement du robinet. Et ça nous a certainement permis de sauver les arbres. Et bien depuis, en plus, ce bassin nous permet d'entendre les grenouilles.
Ouais. Alors là, je vois une affiche où est écrit « Ce brin d'herbe respire la santé ». Et on voit quelques herbes folles là, qui jaillissent du trottoir. Et on sent bien que les désherbants chimiques, c'est pas votre truc.
Si on veut montrer l'exemple, il faut montrer que les collectivités commencent par supprimer elles-mêmes les produits chimiques qu'on appelle régulièrement les phytosanitaires. Donc à partir de là, nous avons dit, nous à Murenier, ça sera zéro phytosanitaire. Ceci dit, c'est dans la politique environnementale de la commune, c'est le seul, je dirais, problème entre guillemets que nous avons rencontré avec la population, c'est que dans le conscient collectif, un brin d'herbe sur un trottoir, c'est sale. Donc nous avons cette communication aujourd'hui, et puis on a eu des réunions, on a expliqué aux gens, on a formé le personnel des espaces verts. Un trottoir sur un espace vert, on leur dit aujourd'hui, ce n'est pas sale, c'est au contraire synonyme de santé, de qualité des eaux, ce n'est pas un détritus, et c'est biodiversité.
Puis Philippe Baudard, il y en a qui sont très très contents, ce sont les oiseaux, je dirais que c'est toute la gent ailée, parce que à la fois en rentrant là sur le parvis de votre mairie, et donc en lisière de forêt, il y a une plaque « Refuge LPO, jardin d'oiseaux ». Donc vous avez signé une convention avec la LPO. En quoi ça consiste un refuge LPO comme ça à l'entrée d'une mairie?
Tout d'abord, moi j'y ai appris aussi au départ pas mal de choses parce que je pensais à Ligue Protection des Oiseaux que ça s'occupait que d'oiseaux. Or, ils ont fait un audit sur tout ce qu'il y avait en faune et en flore dans ces parcs centraux de la commune. Et ils nous ont dit, il y a par exemple des crapauds calamites, dits crapauds accoucheurs, ouais. Il y a des grenouilles, il y a un certain nombre d'oiseaux, il y a un certain nombre d'insectes, etc. Et donc, il faut protéger tout ça. Il y a aussi des chauves-souris. Et ils ont donné des préconisations. Alors, pour les chauves-souris, il a fallu faire cette chiroptère, vous voyez, dans le toit, là-haut.
On dirait une boîte aux lettres. Hein.
Voilà. Oui. Et puis aussi dire, par exemple, tel secteur, vous voyez, de ce bois-là, eh bien, il ne faut pas le tondre avant la mi-juillet, parce qu'il y a des reproductions. Il ne faut pas tondre à moins d'un mètre de la haie et du mur. Parce qu'il y a d'autres espèces qui en ont besoin. Et donc, il y a eu une formation du service des espaces verts. Et en plus, il y a aussi des sorties pour les concitoyens qui ont été organisées, y compris au moment où les crapauds accoucheurs chantent, au moment des amours, c'est-à-dire avril, mai, des sorties nocturnes où les habitants viennent écouter avec la LPO les chants, essayer d'approcher les crapauds et voir quelle est leur vie dans les parcs de la commune. Noël, c'est une fête intéressante. C'est une fête où normalement, même certains arrêtent de faire la guerre et on parle d'amour, de liberté, de fraternité. Et en même temps, on éclaire beaucoup les villes, beaucoup plus que d'habitude. Nous, on a une commune qui n'a pas véritablement de centre-bourg et on s'est dit, l'amour, la fraternité, c'est quoi? C'est aussi un peu lutter contre les solitudes, c'est faire du lien social, c'est dire aux gens qui sont seuls, vous êtes pas si seuls que vous pensez. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez sortir, on va vous sourire. Et donc, on s'est dit, écoutez, l'éclairage surdimensionné du moment de Noël, c'est de l'énergie qui ne donne pas moins de solitude à ceux qui sont seuls. Donc, on a supprimé l'éclairage spécifique de Noël, ce qu'on appelle les illuminations. Et par contre, on a pris la somme qui était à Murenier de 7000 euros il y a un an d'installation et de désinstallation de toutes ces illuminations pour en faire une fête de l'hiver gratuite pour les gens. Et avec le Père Noël, avec pour les enfants, avec des balades en calèche, avec un certain nombre d'animations intergénérationnelles. Et on a donné une vie ce dimanche 21 décembre dernier, ça va recommencer cette année bien sûr, une ambiance, une atmosphère, comme disait Rality, une atmosphère intéressante et sympathique et fraternelle. Et vous savez que les maires aujourd'hui sont souvent, on reçoit plus, comme beaucoup de gens d'ailleurs.
De l'aide d'engueulade.
De l'aide d'engueulade, on voit quand les trains sont pas à l'heure, mais on voit pas quand les trains sont à l'heure. Eh bien, on a eu, le soir même, beaucoup de gens qui sont venus nous remercier d'avoir fait cette fête, avec une ou deux personnes qui ont téléphoné à la mairie pour savoir pourquoi c'était pas illuminé. Vous voyez que le rapport est vite fait.
Ce qui est très intéressant, c'est que là, vous posez les questions de ce qui doit croître et de ce qui doit décroître. C'est-à-dire que ce qui doit croître, c'est du lien social. Ce qui doit décroître, c'est entre autres de l'énergie et de la consommation.
Tout à fait. Et puis, si par exemple, on a parlé d'analyse systémique des choses. Si on parle de décroître et croître, si on parle par exemple du trou de la sécurité sociale en ce moment, nous sommes persuadés ici que le lien social, c'est la première thérapie. Et je dirais, plus que la thérapie, prévention contre les dépressions, contre les mal-êtres, contre les anxiolytiques et ainsi de suite. Comme d'ailleurs l'alimentation, c'est important, comme la culture, c'est la part de rêve nécessaire pour l'individu, pour qu'il puisse libérer ses émotions, pour qu'il puisse rêver, pour qu'il puisse voyager. Et c'est incontournable de l'épanouissement de l'homme. Et je dirais que dans le contexte actuel, par exemple, la culture est beaucoup plus importante que dans des contextes où la société va bien, où la France est dans un bon état de marche, où il n'y a pas de crise économique ou autre, où il n'y a pas de chômage. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, par exemple, qu'il faut permettre encore plus à nos concitoyens de rêver, de se rencontrer, d'avoir des solidarités, car c'est maintenant qu'elles sont encore plus d'utilité publique.
Des actes avant toute chose et un discours qui fait du bien. C'est pas de la com, c'est une réalité, hein, ce qui se passe sur Mur-et-Rigny. Alors après, bah, ça nous sert d'exemple. Tout n'est pas parfait, hein, loin de là, c'est pas ça. Cet homme-là n'a pas de vérité révélée, mais il a quand même réussi à réorienter donc, cette commune vers, on va dire, un mieux-être commun meilleur. Alors, il y a aussi construction de HLM en bois avec des panneaux photovoltaïques. Ça mériterait pratiquement une émission entière. Et l'homme qui arrive, qu'est-ce qu'il a vu ? Ah, vous le connaissez ? Non, je vais pas vous donner son nom. J'ai vu. On le retrouve comme ça. Il est parti au-dessus des nuages. Il revient comme ça sur les ondes de France Inter. Ouais. Encore. Salvador, vous l'avez reconnu sur France Inter, CO2 Mon Amour. Alors une autre initiative là, qui concerne une entreprise, on va parler de bambou. Non, on ne va pas taper sur les bambous. On va aller du côté de Miramas, rencontrer Jean-Claude Joignilloux, qui est responsable d'une société qui s'appelle Phytorem. On ouvre le robinet, tout va très bien, nos toilettes, parfait. Et après, on oublie. Bon, au bout de tout ça, il y a quand même, il faut laver l'eau. Ça arrive dans une station d'épuration, puis après, il y a de la boue. Alors la boue, c'est quand même un gros problème pour les communes. Compost, énergie, épandage, oui, c'est à la charge des communes, pas à l'exploitant, pas au fabricant de la station. Donc c'est là que vous arrivez avec vos bambous. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Claude Joignilloux ?
Eh bien, avec les bambous, en fait, on crée une nouvelle génération de stations d'épuration. Alors classiquement, une station d'épuration, on a un robinet d'entrée, un robinet de sortie. Et donc, le robinet de sortie, c'est le milieu récepteur, ce qu'on appelle donc une rivière, et qui va ensuite dans un fleuve et qui rejoint en fait la mer. Dans notre modèle, en fait, le système de sortie, en fait, c'est le feuillage et le système racinaire, ce qui permet en même temps de traiter de l'eau et de lui donner une dimension très intéressante dans la qualité du traitement épuratoire grâce à la phytorémédiation. Phytorémédiation, c'est en fait le traitement moléculaire par les bactéries présentes au niveau du système racinaire de la pollution. Cette pollution étant minéralisée, elle se rend disponible pour la plante pour sa propre croissance, qui sous l'action de la photosynthèse va développer cette biomasse. Et bien sûr, ce modèle nous permet d'éviter de produire des boues. Alors en fait, les boues, c'est à la fois du carbone, de l'azote, du phosphore, et tout ça, c'est indispensable à la croissance du végétal. Et donc là, en fait, plutôt que de le stocker, de devoir l'évacuer, eh bien, en fait, la plante va prélever cette matière pour sa croissance et le transformer en fait en bois.
Ce déchet, ces effluents deviennent la matière première de ce bambou.
Absolument, ça devient sa matière première. Et donc, il se trouve dans des conditions idéales de croissance, ce qui fait qu'en fait, il se développe formidablement. Il a besoin d'énormément d'eau. Et en fait, on lui apporte quotidiennement. Il a besoin de matière nutritive, on lui apporte quotidiennement. Et donc, ce qui lui permet de croître dans des conditions exceptionnelles. Et donc, à partir de là, en fait, on va faire de l'exploitation forestière. Et de ce résidu qu'avant, il fallait transporter, eh bien là, on va pouvoir éventuellement...
Costaud, hein ?
Ah oui. Absolument. Il est extrêmement riche en silice. Il est imputrescible une fois qu'il est sec. Alors, on va pouvoir en faire du parquet. On va pouvoir en faire des tas de choses. Mais aussi, il brûle aussi bien que le chêne, voire beaucoup mieux.
Ah oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, lui, il a mis que 4 ans à pousser. Alors qu'une chêne raie, il lui faut plusieurs dizaines, voire centaines d'années à pousser. Et ce qui fait que tous les ans, en fait, on va pouvoir avoir une biomasse disponible dont la matière première était avant un problème et qui devient une ressource. Et de cette biomasse-là, en fait, on va même pouvoir calculer son bilan carbone, parce que la photosynthèse, c'est piéger du carbone. Et bien, quand on va brûler ce bois, notre bilan carbone sera équilibré, parce qu'à proximité, certains maires ont déjà évoqué l'idée de chauffer leur école, leur cantine scolaire
au bambou,
avec le résidu de leur station d'épuration.
On connaît ces lagunages, on connaît aussi ces lieux où vous avez donc des plantes aquatiques qui vont épurer l'eau. Vous, donc, c'est la phytoépuration.
Voilà, la phytoépuration dans laquelle, en fait, on va filtrer, mais on ne va pas prélever la matière organique. Par exemple, les roseaux qui sont sur ces fameux filtres plantés prélèvent 1% seulement de la matière et quand ils meurent, ils la relarguent. Donc, en fait, le bilan est nul, quasiment nul, l'avantage est nul. Ils servent simplement à aérer le milieu pour permettre aux bactéries de continuer à se développer puisque la dépollution commence toujours en milieu aérobie. Tandis que nous, en fait, l'oxygénation se fait au niveau du sol et on est sur une plante terrestre. Et la phytorémédiation, donc, c'est bien le prélèvement de la matière organique grâce à l'action de scission moléculaire faite par les bactéries naturellement présentes dans les racines du bambou.
Ça va intéresser qui ?
Alors ça intéresse les collectivités, les communes. Aujourd'hui, de 50 équivalents habitants, on parle en termes d'équivalents habitants pour parler du traitement des effluents domestiques, jusqu'à 10 000. Et puis on va également traiter des effluents industriels. Aujourd'hui, on a des références comme industrielles qui travaillent sur des molécules très complexes. On travaille aussi sur des hydrocarbures. Et c'est la force du végétal. Et on travaille également dans le domaine viticole parce que, en même temps, si on peut avoir une problématique de dépollution du sol, le bambou est capable de drainer une partie d'éléments polluants et de métaux lourds dans son bois et de les stocker. Donc c'est aussi un avantage, mais c'est une autre fonction de la phytorémédiation.
Oui, non, ce sont ces plantes comme les moutardes, par exemple, qui vont récupérer des métaux lourds dans le sol ou bien d'autres plantes. Quoi.
Voilà. Ouais. Mais l'intérêt, il est aujourd'hui de créer en fait des forêts et de rendre ce que nous on appelle un métier d'agriculteur dépollueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commune peut très bien donner l'exploitation de sa station à un agriculteur. Ça permet de maintenir l'environnement agricole à proximité des villes et nos campagnes en ont besoin. Et puis également, c'est très pédagogique. Aujourd'hui, le maire de Vézin, à côté de Cholet, fait visiter sa station à ses enfants. Pas ses enfants, lui,
oui, mais
les enfants de la commune. Et justement, parce que toute la biologie du vivant est résumée là. Et puis, il a même dérouté son sentier grande randonnée pour qu'on puisse visiter. Donc, c'est un peu, voilà, on a renversé le modèle de la station classique, puisqu'on peut marcher dedans, il n'y a pas d'odeur. Et en plus, on piège du carbone, et en plus, c'est joli.
C'est une plante incroyable, le bambou, parce que c'est aussi un objet, évidemment, de civilisation. Les civilisations sont construites autour du bambou. Alors, ça est pur, ça peut être nourricier, ça peut être brûlé, ça fait des maisons, ça fait des radeaux, ça fait plein de choses.
Exactement. Il nous manquait de lui trouver cette fonctionnalité de la phytorémédiation qui nous permet d'optimiser l'emprise au sol, qui était l'enjeu, ouais. Et d'avoir aujourd'hui des bambous qui s'adaptent partout. C'est une espèce non gélive, hein, jusqu'à moins de 25 degrés. Et en fait, c'est une graminée, et donc elle n'est pas très, très éloignée en fait, du maïs. Et on connaît combien aujourd'hui l'enjeu du maïs par rapport aux agriculteurs qui prélèvent beaucoup d'eau pour le nourrir. Et bien pour le bambou, c'est bénéfique.
Concrètement, comment ça fonctionne? Une commune a des bouts de stations d'épuration. Après, on fait quoi? On les étale, on plante du bambou, c'est quoi?
Non, alors aujourd'hui, une commune, elle a des bouts. C'est son système épuratoire qui génère des bouts. Si elle veut arrêter ce cercle vicieux, en fait, elle crée une station dans lequel le bambou va faire le traitement. Il y aura un pré-traitement, va réduire l'impact des bouts. Pour donner un ordre d'idée, en fait, une station de 2000 habitants en bouts activés, en fait, va produire 200 fois plus de boue qu'une station à base de bambou. Et 200, ça dépend en fait de comment on va le paramétrer. Ça peut être entre 200 et 1000 fois moins. Donc le bambou génère quelques boues, mais tellement peu par rapport à ce qui est fait. Donc quand on installe une station à base de bambou, on ne génère plus de boue et on crée de la biomasse. On enlève ces problèmes qui n'étaient pas dits, hein, parce qu'on ne nous dit pas tout. Effectivement, dans le traitement de l'eau, aujourd'hui, on traite de l'eau. On ne la traite pas complètement. Ça, c'est la norme qui l'autorise. Mais en plus, on génère une difficulté qui est à la charge de la collectivité. Il faut savoir que pour extraire les boues de sa station, à un moment donné, eh bien, il va falloir payer.
On fait avec la nature. Ben voilà, là aussi, c'est un peu des axes de l'émission que vous connaissez par cœur. CO2 Mon Amour se termine. Merci à Alain Gadan, à Benjamin de la Gâtinais, aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, à Xavier Pestugia qui réalise l'émission, à notre cyber-documentaliste Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour et qui vous propose aussi l'environnement en temps réel avec un autre site. Semaine prochaine, ah ben Jean-Marie Pelton. Ah bon, ce sera dans son jardin. Ça va être assez marrant ça aussi. Donc Jean-Marie Pelle dans son jardin du côté de Metz. Et avec Courrier International, eh bien, on parlera de réchauffement. Qu'est-ce qui est durable? Le réchauffement. Il y aura aussi Pierre Radan dans cette émission.